Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais bien, chers frères, le Seigneur, à l'occasion d'une dispute petite, j'allais dire minable, une fois de plus, va élever le débat et va révéler qui il est profondément. En révélant quelle est la loi suprême, il révèle qui il est lui-même. C'est les deux points que je vais aborder, quelle est la loi suprême et qui est-il lui-même, qu'il le dit ici. D'abord, la loi suprême. J'ai parlé de dispute, effectivement, on cherche à l'enfermer. Le docteur de la loi qui lui pose la question connaît l'écriture par cœur. Il connaît les 10 commandements de Moïse, il connaît les 617 règles, les mitzvot qui découlent de la loi. Il connaît tout ça très bien, il les connaît dans l'ordre. Alors en fait, il interroge Jésus parce que c'est un piège, parce que comme ils ne respectent pas le sabbat, visiblement, ils n'ont pas compris qu'il était maître du sabbat, eh bien, ils cherchent à lui faire dire, voilà, ce qui est, ils essayent de le piéger. Mais lui va évidemment élever la question et rassembler, montrer qu'il est l'auteur même de la loi. D'abord, il va répondre quelque chose qui n'est pas tellement une nouveauté pour un juif pieux. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et nous le savons nous-mêmes, c'est le premier commandement. Alors, je dis nous le savons nous-mêmes, à condition que de temps en temps on le réinterroge, hein, tout ton cœur, tout ton esprit, toute ton âme, c'est-à-dire tout entier, c'est-à-dire mon corps, mon esprit, mon âme, selon la division tripartite de saint Augustin, qui n'est pas la division paulinienne, mais c'est pas grave, en deux parties, le corps et l'âme, mais qu'importe, ça veut dire vraiment entièrement. C'est une question radicale, est-ce que nous offrons tout à Dieu, est-ce que la louange de Dieu, c'est dans tout notre être, parce que sinon, eh bien, ce n'est pas l'application de l'invitation du commandement divin de l'aimer entièrement. Mais il y a plus, évidemment, que cette manière totale. Il y a encore qu'il va révéler comment il va se réaliser en lui disant « Le deuxième lui est semblable, similaire. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors là non plus, ce n'est pas tout à fait une nouveauté qu'il faille aimer son prochain, déjà écrit dans l'Ancien Testament, bien entendu. Mais la nouveauté est ici que le Seigneur va rompre un tout petit peu la logique. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, si vous êtes un pur logicien, vous devriez attendre, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et tout ton esprit, et donc tu aimeras ton prochain comme tu aimes le Seigneur ton Dieu. Mais non, il y a un petit détour que vous avez remarqué, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que le Seigneur nous invite à savoir pourquoi nous aimons les autres et parce qu'il nous invite à nous aimer nous-mêmes. C'est-à-dire à aimer non pas d'un amour égoïste ce que je suis, mais d'aimer en moi ce que Dieu a mis. Et c'est ça qui est aimable dans les autres. L'altruisme se trompe souvent en pensant que les autres sont aimables parce qu'ils sont les autres. Et cet altruisme a fini par avorter, si j'ose dire, avec Sartre, qui a bien compris que l'enfer, c'est les autres. Eh bien non. Nous savons que malgré les défauts des autres, notre amour des hommes vient de ce, non pas de la merveille que toujours nous pouvons constater, mais il vient d'abord de ce que nous savons qu'en eux, il y a un don divin. Voilà ce que j'aime dans les autres, comme ce que je dois aimer en moi, pas mon pauvre petit égoïsme ou mon ego, mais les qualités que Dieu a déposées dans mon âme. Voilà ce que je suis invité à aider. Le Seigneur, voyez-vous, vient de répondre très largement. Il dit aussi que l'on peut aimer Dieu, et ça c'est une nouveauté peut-être plutôt pour les païens. Nous ne sommes pas des gens qui simplement craignent Dieu, nous ne sommes pas des soumis. Ceux qui sont soumis sont des esclaves. Le chrétien est un homme qui aime son Dieu, car il est appelé à lui ressembler, il est appelé à être divinisé, il est appelé à devenir un enfant de Dieu. Voilà le grand commandement que le Seigneur laisse dans toute sa richesse, et il le dit bien lui-même, ceci résume tous tes contenus, toute la loi et tous les prophètes sont contenus dans ce commandement. La loi suprême, peut-être vous seriez surpris en lisant le code de droit canonique de l'Église, c'est-à-dire les lois de l'Église. Vous seriez surpris d'y trouver, et surtout si vous êtes juriste d'ailleurs, pour avoir appris des lois très positives. Eh bien, il y a un canon, un article qui dit la chose suivante. « Salus animarum lex suprema est ». La loi suprême, c'est le salut des âmes. Voilà ce vers quoi nous avançons, voici vers quoi toute la loi est tendue, voici notre but, sauver les âmes. Et si nous aimons Dieu, si nous nous aimons nous-mêmes dans les dons qu'il nous a donnés, si nous aimons les autres, tout cela est fait pour que notre âme puisse devenir ce qu'elle est appelée à être, une contemplatrice de Dieu. Voilà pour ce premier point de la loi suprême qui a dû déjà ravir les interlocuteurs, qui a dû peut-être même confondre leur mauvaise volonté et surtout les éblouir. Mais le Seigneur ne va pas s'en tenir là car il n'a pas oublié que c'était un piège et il va lui-même confondre ses adversaires parce qu'il est lui-même le moyen du salut. Aussi les interroge-t-il. Pour vous, qui suis-je ? Qui est le Fils ? Parce que le Messie, ils savent bien que c'est lui. On est arrivé à un point maintenant dans l'Évangile, dans la lecture de l'Évangile, où les interlocuteurs du Christ, s'ils ne le savent pas, se doutent que c'est le Messie. C'est-à-dire, loin, celui qui a reçu l'onction, le Christ, celui qui vient au nom de Dieu. Et ça, ce n'est pas tellement douteux. Aussi, quand il dit aux Juifs, mais alors, de qui le Messie est-il le Fils ? Ils ont bien compris qu'il parlait de lui-même. Ce n'est pas un point qui fait difficulté. Ce qui fait difficulté, c'est qu'ils n'ont pas compris qu'il était Dieu. Et oui, là nous touchons au centre de la foi chrétienne, car si tous les croyants du monde, depuis des siècles, savent que Dieu existe, vous le savez, hein, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, la non-croyance en Dieu est une invention récente, moderne, du XVIe siècle, et puis elle va disparaître bientôt parce que c'est vraiment une ineptie de l'évidence même de la science aujourd'hui. Enfin, c'est un autre débat. Mais, donc tout le monde sait que Dieu existe. Beaucoup savent que Dieu a créé le monde. Certains arrivent à se dire qu'il y a une paternité de Dieu sur le monde. Et ça, tout le monde le sait. Et les Juifs, eux, savaient en plus que le Seigneur voulait sauver son peuple, qu'il allait députer un Messie. Voilà ce qui nous est donné à nous d'original et d'imprescriptible, qui est le cœur de notre foi, c'est que le Seigneur, ce Messie que nous attendions, non seulement est envoyé de Dieu, mais en plus, il est Dieu lui-même. C'est-à-dire, c'est l'incarnation qui permet la rédemption, et quand vous avez dit ça, vous avez tout dit de la foi chrétienne. Ce que nous avons d'original à annoncer au monde, c'est que Dieu s'est fait homme et qu'il nous a sauvés. Alors c'est ce qu'il est en train de leur expliquer en leur disant, mais alors, s'il est fils de David, et vous avez raison, car le Christ est vraiment de la descendance de David par Joseph, alors pourquoi David dit-il dans le psaume 110 qu'il est Seigneur et qu'il va placer tout sur un, il va se placer sur un trône et ses ennemis à ses pieds comme un escabeau. Ils ne savent pas lui répondre car ils n'ont pas pu, au-delà de la connaissance qu'ils ont du Messie, reconnaître que c'est Dieu qui les visitait lui-même. Cette question, mes bien chers frères, se repose à nous. Vous le savez, quand nous annonçons le Christ au monde, ce n'est pas difficile de leur dire que c'est un homme extraordinaire, que c'est un prophète, que c'est celui qui était choisi par Dieu pour annoncer un message tout à fait magnifique. Ce qui est difficile au monde à comprendre, et ce qui est même parfois impossible, c'est qu'il est Dieu et qu'il est venu nous sauver. Ce que vous êtes venus chercher, mes bien chers frères, ce matin, ce n'est pas simplement la connaissance que Dieu existe, ce n'est pas simplement la connaissance que Jésus est venu en ce monde. Ce que vous êtes venus chercher, c'est le Christ réellement présent qui, à travers l'humanité, une fois de plus, à travers mes mains, à travers le ministère de l'Église, à travers du pain et du vin, va de nouveau, parce qu'il est Dieu, se rendre présent parmi nous. Voilà ce que nous savons et qui est extraordinaire. Il ne nous reste plus qu'à nous agréger au corps du Christ qui vient à nous et qui nous divinise. Saint Paul l'a dit dans la première lecture, reprenez-la et méditez-la longuement cette lecture. Elle contient tous les éléments de l'Église Elle est fondée sur le Christ, dans l'Esprit, pour nous faire enfants du Père, une seule foi, incorporés par les sacrements. Voilà ce qu'est l'Église. C'est ça l'Église, mes bien chers frères, au-delà de tout péché, au-delà de toute difficulté, au-delà de toute déformation, c'est ça dont nous avons besoin, c'est ça qui nous divinise, c'est pas ça, c'est le corps même du Christ, encore sanctifiant de nos jours, malgré ceux qui résistent. Priez pour que nous puissions annoncer dans toute la profondeur l'unité et la pureté de la foi et de nos mœurs, le Christ qui vraiment veut nous diviniser. Ainsi soit-il.